Je demanderai de tourner avec moi, donc on va lire dans un instant, pas tout de suite, mais en 1 Jean, chapitre 5. J'ai l'assurance de mon salut, le chant, le titre de ce chant dans son original, c'est Blessed Assurance. Et on va pas passer trop de temps dans l'historique de ce cantique parce que nous avons déjà parlé de son auteur quand parce que en effet la personne qui a écrit les paroles de ce chant c'est Fanny Crosby que nous avons vu quand on a parlé du chant à Dieu soit la gloire. Et comme on l'a vu puisqu'elle a écrit entre 8 et 9 000 cantiques ou chants que nous avons dans les différents cantiques, il n'est pas étonnant que si on en voit plus qu'un seul de ces chants. Et cette femme, si vous vous rappelez, était pratiquement née aveugle, hein, c'était à 6 semaines. Imaginez-vous quand sa mère et d'autres lui essayent de lui expliquer ce qu'il y a autour d'elle, que ah, le ciel est bleu, je dis, c'est quoi bleu? Ceci est rouge, c'est quoi rouge? Ah, ça c'est un arbre, c'est quoi un arbre? Essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais, qui a pratiquement... aveugle de naissance, qu'est-ce que c'est un arbre? Et qu'est-ce que c'est un chat? Il dit, bah, touche, ça c'est doux. Ah, d'accord, maintenant je sais, ça c'est doux. Et il était dit que elle avait un tempérament vraiment en elle qui avait peur de rien. Elle grimpait aux arbres. Donc elle a pu apprendre ce que c'est un arbre en grimpant dans un arbre, sans savoir, en voyant rien autour d'elle. C'était une femme vraiment d'un caractère extraordinaire. Sauvée ensuite à l'âge de 31 ans, hein, mais qui a toujours montré qu'il n'en voulait jamais à Dieu pour les conditions de sa vie. Et donc on la retrouve une fois de plus pour ce chant, aimé par tellement de chrétiens à travers les années, l'assurance de mon salut. C'est là mon histoire, c'est là mon chant. J'ai l'assurance. Et chose intéressante qu'on n'a pas vue la dernière fois par rapport à cette dame, Fanny Crosby, c'est que tout le monde témoigne, et elle-même, avait ce témoignage, bien entendu, qu'elle n'a jamais écrit la moindre chant sans avoir pris le temps de prier auparavant pour que le Seigneur l'aide à écrire des paroles qui le glorifient, qui ne soient pas contraires à sa volonté et bien entendu à la vérité. Et elle prenait donc alors que Dieu lui avait donné un don indéniable pour cela, elle ne le prenait pas pour acquis sur son don pour pouvoir écrire les chants correctement. Elle priait. Et pour ce cantique en particulier, chose intéressante, contrairement à la grande majorité des autres chants, cette fois-ci, c'est la musique qui a été écrite en premier, et non les paroles. Généralement, elle écrivait les paroles, et puis les amis qu'elle connaissait mettaient de la mélodie à ses paroles. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Et en effet, Fanny était en train de visiter son ami Joseph Knapp. Vous pouvez voir dans le cantique... Les noms à droite, c'est le nom des compositeurs de la musique. Il a écrit beaucoup des musiques, des chants pour Fanny Crosby. Et donc, elle était invitée à lui rendre visite un jour. Elle le faisait souvent. Et dans la maison de Joseph se trouvait un très grand orgue avant. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle pipe organ. Il est dit que c'est être le plus grand qui pouvait se trouver chez un particulier. Les autres de la même taille ou plus grands se trouvaient dans les cathédrales, etc. Et pendant la soirée, Joseph demande à Fanny d'écouter une musique sur laquelle il était en train de travailler et lui demande, pendant que je joue, dis-moi à quoi cette musique te fait penser. Donc elle l'écouta attentivement et dès qu'il eut fini, il n'y a pas eu de pause, d'interruption. Elle a dit tout de suite, j'ai l'assurance de mon salut. C'est à ça que cette musique me fait penser. Elle a pris le temps de prier et elle nous raconte qu'en pensant aux différents passages bibliques qui nous parlent du salut de Dieu, les paroles et les strophes du chant se sont mis en place très rapidement. Et comme d'habitude, de chanter le chant est une chose, de le penser en est une autre, et de le vivre est une chose entièrement différente aussi. Alors, vous avez trouvé votre place en 1 Jean chapitre 5, on va lire les 15 premier verset de cet épître, de ce chapitre, et qui nous dit, il commence tout de suite, verset 1er, 1 Jean chapitre 5, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. On pourrait continuer, mais on va s'arrêter là et revenir à ce verset 13, où on prend tout ce contexte qu'on a lu. Et il nous dit pourquoi il a donné tous ces versets tout auparavant. Il nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. C'est clair. Pour moi, c'est très direct. Ça ne laisse pas place à une autre interprétation. Tout enfant de Dieu se doit de savoir, d'être certain qu'il a la vie éternelle, non une simple espérance. Ce chant qu'on vient de chanter aurait une toute autre signification si on disait « J'ai l'espérance de mon salut » ou « J'espère un jour avoir ce salut ». J'ai l'assurance. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de pouvoir savoir pour sûr qu'aujourd'hui même je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Il est toujours préférable de savoir que nous avons la vie éternelle assurée en Christ que de même de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qui se passera après les élections? Qu'est-ce qui se passera si c'est pas des choses auxquelles on n'a pas le droit de penser, de réfléchir? Mais il n'y a rien de mieux que de savoir. J'ai l'assurance de mon salut. Il est toujours préférable de savoir que nous avons la vie éternelle assurée que même d'avoir une meilleure maison ou plus de sous dans le compte en banque ou de savoir quelles études je dois faire ou quel travail accepter. Il n'y a rien de plus important que de savoir, sans le moindre doute, qu'on est sauvé, que la vie éternelle nous est assurée, qu'on n'a pas à craindre notre avenir éternel, que nous sommes d'ores et déjà en règle avec Dieu. Et Dieu voulant, nous allons voir envers qui est adressée cette promesse, pour voir ensuite pourquoi il donne cette promesse, et on terminera, Dieu voulant, avec ce que cette confiance devrait produire dans notre vie en tant que chrétien. Or, première chose, à qui est adressée cette promesse? Parce qu'il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et vous savez, j'ai toujours aimé les épîtres de Jean. 1, 2 et 3 Jean, et surtout 1 Jean avec ses 5 chapitres. J'ai toujours aimé ces épîtres. Et j'aime parce que j'aime la façon qu'ils s'adressent aux chrétiens. Et surtout du fait comment ils s'adressent à eux comme à des enfants, généralement. Et parfois, il dit clairement qu'il parle aux petits-enfants, comme au chapitre 2, versets 1 et 12. Parfois, il s'adresse spécifiquement aux jeunes gens, comme au chapitre 2, verset 13. Et parfois, il s'adresse aux pères. Et donc, chapitre 2, versets 12 et 13, et ce n'est pas les seuls passages où on le voit s'adresser aux différents, cibler les différents chrétiens dans l'assemblée. Mais souvent, il englobe les trois en s'adressant à eux, en les appelant mes petits-enfants. Et pas pour les déprécier, mais pour les encourager, pour les motiver, tout en leur montrant qu'ils n'en sont qu'au début de leur vie chrétienne. Peu importe s'ils peuvent revenir et parler aux petits-enfants, aux jeunes gens ou aux pères, peu importe leur âge physique et même depuis combien d'années ils sont sauvés, ils n'en sont quand même qu'au début de leur vie chrétienne. Ils sont loin d'arriver à leur ligne d'arrivée. Et ils s'adressent à eux, à tous, mes petits-enfants. C'est une façon tendre, comme un père qui s'adresse Et c'est pas comme un leader qui est au-dessus de tout, qui est détaché. Et il dit, vous avez déjà fait du bon chemin, mais il y a encore du chemin à faire. Et tout au long de cette première épître, nous voyons Jean parler aux chrétiens, comme on l'a dit, de tout âge. Et comme ici, au début de ce chapitre 5, il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ. Quiconque veut dire exactement cela, n'est-ce pas? Toute personne, sans exception, qui peut croire que Jésus-Christ est le Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc ceci ne concerne pas tous ceux qui ne croient pas, qui doutent et qui se demandent encore, est-ce que Christ est vraiment mort sur la croix pour mes péchés? Ou qui doutent si la mort de Christ soit suffisante pour ne pas y rajouter mes propres œuvres? Cette promesse, pas seulement d'être sauvé, mais d'avoir cette assurance qui ne laisse place à aucun doute, est réservée strictement et seulement à ceux qui ont choisi de croire que Jésus-Christ et Jésus seul est le Messie, le Christ, Dieu incarné, mort pour mes péchés et ressuscité 3 jours après. Les athées ne peuvent pas avoir cette assurance. Les catholiques ne peuvent pas avoir cette assurance. Ils vont dire, mais je crois que Jésus est le Christ. Oui, mais tu ne crois pas que le sacrifice de Christ soit suffisant. Tu insistes à ajouter des œuvres à l'œuvre de Christ sur la croix. Tu ne crois donc pas que Christ soit suffisant. Les mormons ne peuvent pas avoir cette assurance de leur salut. Pour la même raison que les catholiques, ils ajoutent les œuvres à l'œuvre de Christ. Les musulmans, les bouddhistes, les témoins de Jéhovah et autres ne peuvent pas avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle, de savoir aujourd'hui même qu'ils sont sauvés et que la vie éternelle leur est promise, parce qu'aucun n'accepte la vérité que Jésus est le seul Christ, le seul Messie, qu'il n'y en a pas d'autre, et que Christ et Christ seul soient plus que suffisants pour me sauver de mes péchés et m'accorder la vie éternelle. Il n'a pas besoin de mon aide pour rajouter mes œuvres ou quoi que ce soit. Christ et Christ seul, son sacrifice, sa résurrection et tout ce dont j'ai besoin. Seules les personnes ayant accepté Christ comme leur sauveur peuvent avoir cette assurance. Il n'y a pas de plus grande paix que de savoir, sans le moindre doute, que quand je meurs, je vais au ciel. Pas un j'espère que, ou j'ai eu une grande chance de, ce n'est même pas après avoir purgé ma peine, j'espère avoir une place au ciel. Mais le verset 13 nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il ne peut pas avoir d'autre interprétation que celui-là. Beaucoup veulent avoir cette assurance sans se soumettre à la volonté de Dieu, sans venir devant lui et accepter son salut donné par grâce et reçu par la foi. Dieu ne veut pas nos œuvres, il ne veut pas nos promesses, il veut notre foi, que nous ne mettions pas en doute sa promesse, qui il est, ce qu'il dit. Et on ne peut pas dissocier l'assurance de notre salut avec la foi que nous plaçons en lui. Mais ne confondons pas les choses. Je n'ai pas l'assurance parce que j'ai la foi. J'ai l'assurance parce que je fais confiance, non en ma foi, mais dans les promesses de Dieu. J'ai l'assurance parce que je place ma foi dans la personne de Dieu. En Jean chapitre 10, versets 27 et 28, Jean 10, 27, 28 nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est une vie éternelle que Dieu nous promet. Et c'est une assurance que nous pouvons l'avoir dès l'instant que nous acceptons le salut que Dieu nous offre au moyen de la foi. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Est-ce que vous avez, même dans notre langage français, on peut comprendre, afin que vous sachiez, pas espérer, pas pour que vous puissiez un jour savoir, une fois que vous avez mûri et grandi dans la foi et mûri en maturité chrétienne, mais que vous puissiez, sachiez, afin que vous sachiez maintenant, dès aujourd'hui, à l'instant même, d'ailleurs, il dit que vous avez, pas que vous aurez. Vous avez déjà aujourd'hui, donc vous pouvez savoir dès aujourd'hui que cette vie éternelle vous est acquise. L'assurance vient dans le fait que nous n'avons pas à attendre. Nous avons déjà la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous rappelle que cette assurance, elle est réservée aux chrétiens seuls, et qu'un inconverti, il ne peut pas connaître cette assurance. Il ne peut la connaître seulement après avoir placé sa foi en Christ pour le salut de son âme, pas avant. Beaucoup veulent cette assurance et cette paix. Et ils veulent dire, j'accepterai le salut s'il me montre quelque chose, me fait un signe, si ceci ou cela. Mais ça, ce n'est pas la foi. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous partage cette vérité? Ce passage, elle est réservée à des chrétiens et non à des convertis. Alors, si nous sommes sauvés, nous avons déjà fait preuve de foi en lui. Et donc, on se dit, mais alors pourquoi nous le rappeler? Pourquoi cette promesse nous est-elle donnée? Et il est dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pour moi, c'est plutôt clair. Mais ne lisons pas trop rapidement en arrivant à une fin logique. Ce n'est pas juste une question d'avoir connaissance. La connaissance en elle-même, elle ne suffit jamais. Beaucoup ont connaissance de ce que Christ est mort sur la croix. Ils ne vont pas la nier. Beaucoup ont connaissance de pas mal de choses. Mais si on lit ce verset trop rapidement, on va rater les autres vérités qu'on devrait y trouver. Par exemple, non seulement est-ce que ce passage s'adresse à tous les convertis pour les encourager, les rappeler qu'ils n'ont aucune raison de douter ou de craindre de ce qui va arriver après la mort, mais cette déclaration devrait être également un encouragement pour tous les inconvertis. Parce que rappelez-vous du tout premier verset qu'on a lu de ce chapitre, 1 Jean 5:1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Il dit « Quiconque croit, si tu as déjà fait ce pas de la foi pour croire, alors tu as l'assurance de ton salut. Mais si tu ne l'as pas encore fait, ben, tu es englobé dans ce quiconque. Tu peux le faire toi aussi. » Ça a été vrai pour toutes les... C'est vrai pour tous les chrétiens qui sont sauvés, ils ont cette assurance. Tu peux avoir cette paix, tu peux avoir cette assurance toi aussi. Tout chrétien te confirmera, témoignera de la chose. C'est une promesse merveilleuse, la plus merveilleuse de toutes. Comme on l'a dit tout à l'heure dans les moments de témoignage, aussi bien pour cette famille qui passe par cette tragédie, pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir cette paix et cette calme? J'en déduis que cette fille a également fait une profession de foi. Et que les parents peuvent dire, la douleur et la peine, elle est là. Mais nous savons que nous allons la revoir. De savoir que nous avons la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux. Ne manquez pas que c'est également une promesse personnelle qui nous donne. C'est valable pour le monde entier. Mais elle doit être acquise pour moi personnellement d'abord. C'est moi personnellement qui ai cette confiance, cette assurance et cette paix d'aller au ciel. Je n'ai pas besoin de l'assurance de quelqu'un d'autre. J'ai moi cette assurance en moi. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur l'assurance qu'a ma femme ou mon père ou un frère dans la foi. Dieu me donne à moi cette assurance pour que dans les moments les plus pénibles, les plus difficiles, il me rappelle de cette vérité. Hey, tu passes par un moment difficile, mais rappelle-toi. Ce temps sur la terre, elle est passagère. Et je crois que c'est peut-être l'un des problèmes, l'un des plus grands problèmes de beaucoup de chrétiens. Ils vivent leur vie, même pour ceux qui sont sauvés, ils vivent leur vie chrétienne comme si elle va durer pour toujours. Et ils pensent à l'éternité comme si c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors qu'on devrait faire l'inverse dans notre façon de penser. Que notre vie sur terre, la Bible dit, n'est qu'une vapeur qui passe pour un peu de temps et qui ensuite s'éteint, et que l'éternité, de par définition, ne finit jamais. Et beaucoup d'inconvertis, malheureusement, vivent de la même manière. Après tout, oui, je peux avoir, moi, cette assurance. Le fait que je sais quand je doute, n'est-ce pas? Et vous savez quand vous doutez, même si les autres ne le savent pas. Je sais quand je suis résolu de faire un certain choix. Je sais quand je ne suis pas sûr de moi. Il est donc normal que je puisse savoir que j'ai également la vie éternelle, d'une manière personnelle, promise en Christ. Peu importe ma santé, peu importe les circonstances, peu importe ce que disent les autres, peu importe comment les autres veulent influencer ma façon de penser, je sais, j'ai l'assurance de mon salut. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas m'enlever ça. Il arrive que parfois, même un chrétien mûr dans la foi passe par un temps de doute et de remise en question. Et à ce moment-là, ce chrétien doit se demander en quoi et en qui était basée sa foi dans ce cas-là. En quoi croyait-il? Pourquoi il croyait cela? Et en qui était placée sa confiance pour être sauvé de ses péchés? Si la réponse à ces questions, c'est Dieu et les vérités trouvées dans sa parole, bah, il doit donc ensuite se demander, est-ce que Dieu et ses vérités ont changé? Est-ce que j'ai raison de vouloir continuer à douter de la chose? Le fait que Jean s'adresse à des chrétiens en leur mentionnant qu'ils peuvent savoir sans le moindre doute qu'ils sont sauvés, qu'ils ont d'ores et déjà la vie éternelle, montre bien que c'était une vérité que ces chrétiens avaient besoin d'entendre. Ce n'était pas juste, ah, vous saviez cela, donc je vous rappelle de cette vérité. Bonjour. Et donc, nous devrions savoir que nous avons la vie éternelle. Hop. Si vous voulez.
Merci.
Et de pouvoir savoir que ce qui arrive après nous est assuré, nous est accordé, nous est donné. Et beaucoup citent les paroles du philosophe mathématicien français, hein, je pense donc je suis. Ils disent, ah ben c'est logique. Ben même, de la même manière, un chrétien devrait pouvoir dire, je suis sauvé, et donc je suis. Ou je suis sauvé, et donc j'ai la vie éternelle, avec la même logique. Cette déclaration, mieux, cette vérité devrait chasser et enlever tous les doutes et les questions par rapport à notre avenir et notre vie éternelle, à ce qui arrive, à ce qui fait peur à la plus grande majorité des gens, à ce qui arrive après la mort. J'ai toujours été étonné. La manière que j'ai été même parfois invité à aller à un enterrement, mais alors qu'on est là pour ce qui est évident, on n'a pas le droit de parler de la mort. On doit parler de ce qu'on veut, de la vie de la personne, on doit parler, mais ne mentionnons pas le mot mort. C'est un sujet de tabou. Parce que pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Les gens ont peur de ça. Parce qu'il y a une incertitude immense. Qu'est-ce qui se passe après? Mais pas pour le chrétien. Normalement, pas pour le chrétien. Il peut avoir l'assurance. Je sais ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est bien tellement meilleur de ce que je vis maintenant. Je n'ai pas à avoir peur de quelque chose de meilleur. Je ne peux pas avoir peur de cela. Mais je peux être rempli de paix malgré les souffrances présentes parce que je sais ce qui m'est réservé après. La promesse que Dieu m'a accordée en Jésus-Christ après, ben, je n'ai qu'à attendre, je n'ai qu'à être patient. Il me l'a promis, il ne peut mentir. Cette vérité devrait remplacer toutes les doutes, les craintes par la paix, la joie et le réconfort et force pour nous aider à faire face aux difficultés présentes. Donc regardons, si vous voulez, rapidement pour terminer, justement l'effet que cette promesse devrait produire en nous. On chante facilement, j'ai l'assurance de mon salut. Oh mon Seigneur, c'est là mon histoire, c'est là mon chant, je le chante. Mais qu'est-ce que ça fait dans notre quotidien? Il est évident que déjà, ça devrait donner un minimum de courage et de joie de penser au fait qu'on n'a pas à se demander et à douter et à espérer d'avoir une vie éternelle. Il est évident qu'une personne remplie de confiance agira et vivra différemment qu'une personne remplie de crainte et de doute. Ça se verra sur son visage, ça se verra sur sa façon de parler, ça se verra sur sa façon de voir les choses, sa façon de voir et de faire face aux circonstances de s'il a confiance dans ce que Dieu a promis ou si il ignore les promesses de Dieu. Ça se verra dans son langage, ça se verra dans son comportement. Je pense aux milliers de chrétiens qui sont morts comme martyrs. Leur témoignage au moment de leur mort reflète directement si cette vérité était essentielle pour eux ou non. Ils ont pu faire face à une mort certaine. Certains d'entre eux, si vous connaissez un peu l'histoire des martyrs, même en France, ils ont pu faire face à une mort extrêmement douloureuse parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le moindre doute que dès qu'ils soupiraient leur dernier souffle, qu'ils seraient en présence de Dieu au ciel. Cette vérité leur a donné une force indéniable, un courage et une paix qui confondaient les personnes qui les mettaient à mort. Une paix, une force et un courage qui était impossible pour eux de s'auto-administrer. Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez l'affirmation que Dieu nous donne? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, pas aura, ou peut espérer avoir, ou un jour obtiendra, a la vie éternelle. À chaque fois que vous voyez une double répétition, où il dit « en vérité », sachez que c'était, surtout à la façon à l'époque, dans la culture juive, de prêter bien attention à ce que je vais dire, ne manquez pas cette vérité, ou ceci est une vérité primordiale. Il dit « en vérité, je vous le dis, allez-vous remettre en doute la parole même de Christ ?» Christ lui-même dit « je vous le dis, celui qui croit en moi ». C'est Christ qui parle. Il n'est pas dit « celui qui croit en quelqu'un d'autre, celui qui croit en moi, le Christ, le Messie, a la vie éternelle. » Qui ne remet pas en doute la promesse que je vous dis, que si tu acceptes le sacrifice que j'ai fait pour toi sur la croix, pour tes péchés, tu es sauvé par la foi. Parce que je te l'offre par ma grâce, non parce que tu peux le mériter. Sa parole n'était pas suffisante pour nous donner confiance et cette assurance. Sa parole n'était pas suffisante pour chasser les doutes et les questions qu'on pourrait avoir, mais pourquoi est-ce que Dieu, ou pourquoi ceci? Non, Dieu a dit, Dieu a déclaré. Laissons donc Dieu déclarer ce qui est vrai, et non nos émotions ou notre connaissance et notre raisonnement limité. Laissons Dieu être la vérité, et que toutes les autres fois se taisent en sa présence. Si qui que ce soit dise quoi que ce soit contraire à la parole de Dieu, ça se doit d'être regardé comme autre chose que la vérité. Mais quand Christ dit « en vérité, je vous le dis », ceci, vous pouvez faire confiance, c'est la vérité, je suis la vérité, je ne suis pas homme pour mentir, vous pouvez faire confiance dans ma parole parce que je suis le Messie, je suis Dieu qui est venu mourir sur la croix pour vous. Et le plus longtemps que je suis sauvé, le plus longtemps que je connais Dieu, le plus que je m'approche de lui, plus mon assurance et ma confiance en lui se doit de grandir et être ferme. Si je doute de la parole de Dieu, ce n'est pas parce que je suis si proche de lui, mais plutôt parce que je me suis éloigné de lui. On ne devrait pas avoir besoin d'arguments complémentaires que de savoir que Dieu l'a déclaré comme tel pour être convaincu. Et encore une fois, il est en train de parler à des chrétiens, des personnes qui ont déjà fait preuve de foi pour accepter le salut en Christ. L'effet de cette vérité devrait produire en nous, avec la joie et le courage, mais aussi ça devrait nous apporter un minimum d'humilité. Si on retourne juste quelques chapitres, hein, en 1 Jean chapitre 1, versets 6 à 9, 1 Jean chapitre 1, verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, même le fait de savoir, d'avoir cette assurance de mon salut devrait m'aider à avoir l'humilité de reconnaître qui je suis, que je suis un pécheur. De ne pas essayer d'excuser mes péchés, de ne pas essayer de justifier mes péchés, mais de reconnaître que je suis un homme faible et pécheur quand même. Nous ne sommes pas venus à Dieu comme si on n'avait pas de péché pour notre salut. Sinon, à quoi sert l'amour de Christ sur la croix? Nous ne sommes pas venus à Dieu avec nos œuvres pour être sauvés de nos péchés. Sinon, à quoi sert l'amour de Christ sur la croix? De même, après notre salut, nous ne continuons pas à venir devant Dieu comme si on mérite que Dieu nous écoute et réponde à nos prières. Comme si nos œuvres nous permettent d'avoir accès auprès du Père. Nous sommes venus à Dieu en faisant confiance, en plaçant notre foi dans le sacrifice de Christ sur la croix pour nous. Et on continue après notre salut à venir devant Dieu, quoi? En priant au nom de Christ, parce qu'on prie par son autorité, à cause de ce que lui a fait pour nous, et non parce que nous ne sommes plus pécheurs, ou parce qu'on mérite de ce que Dieu écoute nos prières. Je peux venir devant Dieu parce que j'ai l'assurance que le salut que j'ai en Christ me donne accès auprès du Père. J'ai l'assurance de mon salut. Je suis sauvé, je le sais. Mais je viens devant Dieu comprenant que je suis un pécheur, comme on dit parfois, je suis un pécheur sauvé par grâce, mais un pécheur quand même. Je ne suis pas sauvé par mes mérites. Et que le fait que je sois sauvé ne change pas le fait que je suis un pécheur quand même. Je viens devant Dieu parce que Dieu accepte le sang de Christ qui me recouvre et me lave de mes péchés. Sans le sang de Christ, je ne peux pas espérer être accepté par Dieu parce que je n'ai absolument rien à lui offrir. Je ne peux venir devant Dieu avec une pleine assurance, sans crainte, parce que je sais qu'il est impossible pour Dieu de refuser le sang de Christ qui me pardonne de tous mes péchés. On l'a chanté. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et ensuite, on chante. C'est mon histoire. Qu'on a une histoire qu'on trouve être belle, qu'on aime partager. On veut la partager. C'est pour ça que dit, c'est mon histoire, mais c'est mon chant, je veux le chanter. L'autre effet que cette vérité devrait naturellement produire dans notre cœur, c'est la volonté d'être obéissant à Dieu. Parce que je sais que je suis sauvé, que je n'ai aucun plus besoin de douter, de craindre de ce qui va m'arriver après la mort. La moindre des choses pour moi, c'est de lui être reconnaissant, hein, de l'aimer pour un don si merveilleux et donc de lui être obéissant. Le chrétien qui se dit être sauvé et volontairement refuse de se soumettre à la volonté de Dieu ne doit pas remettre en question les commandements ou la volonté de Dieu, mais de remettre en question son salut. Par rapport à commencer par se demander s'il est vraiment sauvé pour ensuite se demander s'il est reconnaissant pour le salut de Dieu ou s'il pense que c'est quelque chose qu'il mérite. Si vous êtes vraiment sauvé et que Dieu nous demande de faire quelque chose, de vous soumettre, d'avoir l'humilité qu'il faut et que vous choisissez de ne pas le faire, est-ce que vous pouvez vraiment dire que vous pouvez chanter, que vous avez l'assurance de votre salut, tout en disant « je choisis d'être désobéissant à sa volonté en même temps » S'il pense que c'est normal que Dieu lui accorde le salut ou qu'il mérite le salut, il doit se demander est-ce que je suis vraiment sauvé? Parce que la Bible est claire que personne, absolument personne, ne peut mériter le salut. S'il est vraiment sauvé, s'il reconnaît qu'il ne mérite pas le salut, mais qu'il refuse toujours d'obéir, il doit se demander s'il est reconnaissant pour un cadeau qu'il avoue ne pas mériter. S'il est reconnaissant, ou est-ce qu'il est un enfant ingrat, orgueilleux, rempli d'un amour pour lui-même au lieu d'aimer Dieu qui l'a sauvé d'un enfer éternel pour lui donner la vie éternelle. Si le chrétien admet avoir un salut qu'il ne mérite pas et qu'il continue à vivre volontairement en dehors de la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va rejeter Dieu dans toute sa vie, mais de ne pas accepter son autorité dans sa vie quand même, ce chrétien doit se demander s'il pense être assez fort et assez intelligent pour faire face à tout ce que la vie va lui réserver sans jamais avoir besoin de Dieu pour l'aider. J'ai l'assurance de mon salut, c'est mon histoire, c'est mon chance, c'est quelque chose qui devrait me pousser à dire, j'ai besoin de cette assurance, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin de Dieu. Pas juste pour le pardon de mes péchés, j'ai besoin de lui pour ma vie. D'une manière ou d'une autre, un chrétien qui consciemment refuse d'obéir à la volonté de Dieu se doit de remettre en question son salut et ce que ce salut surtout représente pour lui. Dans le chapitre suivant, dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, versets 3 et 4, nous dit « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Parce qu'on connaît l'autre passage, il dit « Si nous gardons ses commandements, nous savons que nous l'aimons. Nous l'aimons si nous gardons ses commandements. » Ici, il nous dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. On peut penser que ce sont des paroles dures et on voudrait essayer de les justifier, d'excuser les circonstances. Mais pour ma part, je ne voudrais pas contester la parole de Dieu. Pour le chrétien qui accepte la vérité sur lui-même et sur la place que Dieu doit avoir dans sa vie, l'assurance qu'il lui apporte de salut va également le motiver à vouloir servir le Seigneur et l'obéir. Ce ne veut pas dire que certaines choses ne seront pas difficiles, mais il accepte de les faire quand même par amour pour Dieu et non à contre-cœur. On va pas prendre le temps, mais je vais juste lire le passage, parce que l'autre effet, le résultat que ça devrait produire, l'assurance de notre salut, c'est l'amour que nous devrions avoir pour Dieu et pour les frères et sœurs dans la foi. Toujours dans 1 Jean chapitre 2, les versets 9 et suivants, on nous dit « Celui qui prétend être dans la lumière, » j'aime cette façon de dire « qui prétend », qui se dit, fait presque semblant, mais qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Comme on dit, on n'a pas le temps de vraiment voir tout ce que cela implique. Mais un chrétien qui est convaincu de son salut se voit être une personne qui n'est pas aussi facilement offensée par les autres que la personne qui doute de son salut. C'est un fait. L'amour que j'ai pour mes frères et sœurs en Christ est directement lié au salut que j'ai en Christ. Et si j'ai l'assurance de ce salut, cette confiance indéniable du salut que j'ai en Christ, mon amour pour les autres en sera automatiquement affecté. Il a dit, si vous dites être dans la lumière, vous dites être sauvé, mais vous avez de la haine pour un frère, vous êtes un menteur. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Pour conclure, je vais quand même demander à ce que vous tourniez avec moi dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 5.
Désolé, je n'ai pas mis de lunettes.
Il n'y a pas de souci.
Désolé.
2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Il y a encore les oreilles, ça c'est suffisant. Pour l'instant.
Pour l'instant. Vous allez les boucher.
Non, non.
Ce que je reviens comme discours, c'est qu'on parle des Philippines, du Bangladesh, de Madagascar, de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Occident envoie des cargos tous les jours.
Ça, on peut en parler, mais après, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Voilà, si vous avez trouvé le temps de trouver 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1er, dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, donc il parle de notre corps, n'est-ce pas ? Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours, quoi, pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Nous sommes tous responsables de nos actions. Si Dieu nous a donné une vie éternelle, ce n'est pas une vie passagère. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, on inverse les rôles, on vit sur cette terre comme si elle va durer pour toujours et on pense à l'éternité comme si c'est quelque chose qui arrivera peut-être un jour et peut-être pas. Et que Dieu nous dit, on doit inverser nos regards. Il nous donne une vie passagère sur cette terre, mais il nous donne une vie éternelle au ciel, pas l'inverse. Et tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons pendant cette vie passagère, doit être en vue de cette vie éternelle. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Pas l'inverse. Pas rechercher ce que cette vie sur terre peut vous procurer, et ensuite Dieu vous donnera la vie éternelle en plus. On reconnaît l'arbre par son fruit, n'est-ce pas ? Alors on devrait reconnaître que vous êtes des enfants de Dieu, en montrant de l'amour, en faisant preuve de grâce, en ayant une volonté de pardonner, et en ayant une volonté d'obéir à la volonté de Dieu. Non parce que la personne autour de nous mérite à ce qu'on leur montre de l'amour, et grâce et pardon, mais parce que Dieu le mérite. Parce que Dieu m'a donné la vie éternelle que je ne mérite pas. Parce que non seulement qu'il m'a donné la vie éternelle, mais il m'a donné cette assurance que je n'ai pas à douter, que peu importe ce qui m'arrive, elle m'est promise déjà maintenant aujourd'hui.
La rédemption.
La rédemption.
très difficile à l'articuler, la rédemption.
Ça peut l'être.
C'est très philosophique. Ça fait 2 ans que je travaille dessus.
Un dernier passage en 1 Jean, vu que ça continue dans notre contexte. 1 Jean chapitre 4, verset 7, dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, pas j'aimerais que, nous devons, c'est un devoir, aussi nous aimer les uns les autres. » Verset 13, « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et on pourrait continuer jusqu'à la fin du chapitre, mais on n'a pas le temps. Et je vous pose la question. Jusqu'à présent, on a parlé du chrétien qui peut avoir cette assurance du salut, ce que ça devrait produire dans sa vie, comment ça devrait l'influencer, le changer dans plusieurs domaines. Mais déjà, est-ce que vous avez cette assurance? Êtes-vous sauvé ce matin? Si oui, si vous dites oui, moi ça fait, ce passage est adressé aux chrétiens, donc ça me concerne. Dans ce cas-là, je devrais vous demander quels sont les fruits qui prouvent ce salut que vous avez en vous? Quels sont les fruits qui le démontrent? L'amour que vous avez pour Dieu, il dit ici que ça devrait être le résultat normal. Que celui qui est né de Dieu, doit aimer Dieu. Sinon, s'il n'aime pas Dieu, il n'a pas connu Dieu. On ne peut pas avoir les deux opposés. Quels sont les fruits qui démontrent l'amour que vous avez pour Dieu, l'amour que vous avez pour sa parole, l'amour que vous avez pour les frères et les sœurs dans la foi, la paix qu'apporte votre assurance du salut, votre volonté de lui être agréable et obéissant? Tout ça sont des fruits qui devraient être logiques et normales dans tout chrétien, sans exception. 1 Jean chapitre 5, versets 2 et 3, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas juste un amour pour Dieu, sa parole et sa volonté, mais c'est un amour qui sera toujours plus grand que mon désir de me faire plaisir et d'écouter à ma chair et de préférer qui voudrait à ce que je sois confortable et de me mettre en premier. » Vous savez, rien que dans ce chapitre de 1 Jean, chapitre 5, il dit encore et encore cette confiance et cette assurance que nous avons grâce au salut que Dieu nous donne. Verset 1er, « Quiconque croit, pas quiconque espère, ou quiconque fait face à une tentative de croire, quiconque croit. » Verset 2, « Nous connaissons, pas de place pour le doute. » Verset 4, « La victoire qui triomphe du monde, il dit, c'est notre foi, pas qui espère triompher, mais qui triomphe. » Versets 5 et 10, « Celui qui croit a deux fois. » Verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie. » Pas « aura » ou « espère ».
Rédemption.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La rédemption, il faut l'accepter. Verset 13, « Afin que vous sachiez, vous qui croyez. » Verset 14, « Nous avons auprès de lui cette assurance. » Verset 15, à deux reprises, il dit « Nous savons ». Versets 18, 19 et 20, à chaque fois, il dit « Nous savons, nous savons, nous savons. » Pas « Nous espérons, nous, on espère savoir. » Si nous croyons au sacrifice de Christ pour le salut de notre âme, nous n'avons absolument aucune raison de craindre et ne pas croire en tout le reste de ses promesses. Nous sommes sans excuse. Nous pouvons savoir, pas seulement qu'on est sauvés, mais que nous avons son aide, que nous avons ses promesses, que nous avons son soutien, que nous avons son amour, que nous avons tout en Christ. Ce n'est pas ma foi qui apporte cette confiance se trouve dans la personne. On l'a chanté, c'est mon histoire, c'est là mon chant, louant mon sauveur à chaque instant, y compris quand je pense ou passe par des moments difficiles. Je ne mets pas en doute le caractère de Dieu, je sais qu'il m'aime, qu'il me veut du bien et rien que du bien. Je peux le louer, je peux le chanter parce que j'ai l'assurance, j'ai la paix de mon salut. Et rien n'est plus important que cela. Prenons le temps de prier et ensuite on peut avoir un moment pour discuter ensemble.